Bon, on va poursuivre notre étude de la semaine dernière du livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, les versets 1 à 11. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 1 à 11. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toute chose bonne en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Alors, on poursuit notre étude de la semaine dernière. Je rappelle le titre que j'avais donné. Dieu a préordonné nos circonstances de vie dans son décret éternel. On va faire une brève révision de ce qu'on a vu jusqu'à la semaine dernière pour ensuite continuer où on était rendu. Alors, on se rappelle que la semaine dernière, on avait vu le fait que dans Ecclésiaste chapitre 2, versets 18 à 26, le Seigneur avait donné une leçon que Salomon se devait d'apprendre. C'était celle de qu'il reconnaisse la place de la main de Dieu. Dans plusieurs choses. Premièrement, dans la correction de nos orientations, de nos illusions quant au sens de la vie et à la manière d'expérimenter le bonheur terrestre, de réviser nos attentes face à nos labeurs et à notre travail. Aussi, il se devait d'apprendre, et le Seigneur se devait de lui ouvrir les yeux sur le rôle de régulateur qu'il joue. Alors, le Seigneur veut montrer que les hommes doivent se contenter des dons qu'il leur offre, soit le manger, le boire, et également les plaisirs qui sont reliés au travail. Et la troisième chose que Salomon se devait d'apprendre, c'est que le rôle le Seigneur rétribue, celui qui rétribue. Donc, il donne à celui qui lui est agréable, et laisse aux pécheurs le mirage d'amasser des biens. Il redistribue aux sages les accumulations du pécheur. On avait vu également le fait que les 15 premiers versets du chapitre 3 sont d'une grande richesse et servent à nous faire comprendre le temps de Dieu. Alors, quand on regarde les temps là-dedans, il y a 28 ans à 14 pères, et on parle ici des temps de Dieu. Alors, ça a pour but de nous montrer qu'on n'est pas maître de notre temps et que seul le Dieu souverain contrôle absolument les événements, comme la naissance et la mort, et aussi l'ensemble de toutes les circonstances de la vie des hommes, tant individuellement que collectivement. Alors, on avait vu qui était important de saisir qu'il y a une structure là-dedans, une structure qui est voulue par le Saint-Esprit. Donc, si on prend le temps de compter le nombre de fois que le mot « temps » est écrit dans les versets 1 à 11, on va se rendre compte qu'il y a 28 temps et qu'ils sont toujours en paire. Donc, quand on dit, on va prendre l'exemple de la première paire, un temps de naître, un temps de mourir. Donc, c'est des pères, mais c'est des pères qui sont toujours en termes d'opposition. Et c'est important de voir cela. Et pour plusieurs raisons. Le fait qu'il y ait 14 paires, qu'il y a 28 ans et 14 paires, donc c'est des multiples de 7. Et le but de ça, c'est pour exprimer que le Seigneur exprimer la totalité. Donc, les deux multiples de 7 veulent représenter l'exhaustivité, autrement dit, la complétude. Autrement dit, il n'y a pas un aspect de nos vies qui n'est pas inclus dans ces paires-là, parce que ça c'est fait pour pouvoir montrer que le Seigneur est au contrôle des temps de l'homme dans tous ses aspects, dans toutes ses facettes. Et on avait aussi exprimé une autre observation sur la structure, c'est celle du verset 11. Il a fait tout beau. Il a fait tout beau. Autrement dit, il est en train de nous montrer que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, dans les 14 paires ou dans les 28 temps, le Seigneur fait toutes choses beau, dans le sens que ça l'amène. Dieu fait les choses pour des raisons. Et il nous, un peu comme ça dit dans Romains 8, 28, toutes choses contribuent ou travaillent ensemble pour notre plus grand bien. Donc, c'est important de saisir cela parce que c'est une des choses importantes à savoir de l'ensemble du passage. On avait vu aussi le verset 1, à toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. Donc, le décret divin est identifié dans le verset 1. Et comme on se souvient dans le psaume 31 au verset 16, ça nous est rappelé, ça nous dit, mes temps sont en ta main. Alors, bien sûr, on avait regardé aussi le lien qu'il y a entre notre confession de foi baptiste de Londres dans les deux passages, au chapitre 3, sur le décret de Dieu, le paragraphe 1, on avait regardé, et aussi le chapitre 5, le paragraphe 1 également, sur la providence divine. On avait fait un lien avec ce qu'on est en train d'étudier et ce que ces passages-là disent. On ne les reprendra pas, là, mais c'est juste pour reviser un peu rapidement. Donc, la semaine dernière, on avait regardé le décret divin illustré. À partir du verset 2 jusqu'au verset 8, c'est vraiment que, à partir du moment où le principe a été établi, il veut prendre des exemples, veut démontrer par l'ensemble des autres, des temps qui sont mentionnés, la vérité du principe général qui était de la souveraineté de Dieu et de la suprématie de Dieu dans nos circonstances. Donc, le premier qui avait été mentionné, c'est qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Autrement dit, le Seigneur vient nous montrer, on avait regardé dans le psaume 139, que le Seigneur avait déterminé le moment exact, les circonstances exactes de notre naissance, et que dans le décret de Dieu est aussi inclus la date, la minute, les circonstances même de notre mort. Alors, c'était important qu'on réalise ça. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. C'est les temps de Dieu. Donc, c'est ça. C'est pas moi qui a décidé de mourir. C'est pas moi qui a décidé de naître. C'est pas moi qui va décider de mourir. C'est le Seigneur qui a décidé quand est mon temps de mourir. Même si ça serait un suicide, là, le Seigneur aurait quand même prévu dans son éternité que je ferais cet acte-là et il l'aurait laissé s'exécuter. Mais c'était quand même dans ses décrets, dans son décret. La paire numéro 2 qu'on avait regardée, c'est un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. On avait rappelé que Salomon avait vraiment richement expérimenté plusieurs choses, le jardinage, l'arboriculture, l'horticulture et les travaux agricoles. Et s'il y a quelqu'un qui était bien placé pour savoir ça, parce que ça dit, on va juste le réviser, le verset Ecclésiaste 2, versets 4 à 6, pour nous montrer qu'à quel point, quand il parle d'une chose, c'est des choses qu'il connaît, il ne parle pas à travers son chapeau, comme on dit. Alors, il dit dans le chapitre 2, versets 4 à 6, j'ai fait de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers, je me suis fait des réservoirs d'eau pour en arroser le parc planté d'arbres. Alors, s'il y a un homme qui était bien placé pour savoir qu'il y a un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté, c'est bien Salomon. On était rendu là. On était rendu à la paire numéro 3. La paire numéro 3, c'est dans le verset, première partie du verset 3. un temps pour tuer, un temps pour guérir. Alors, le temps pour tuer peut faire référence au droit du gouvernement humain d'enlever la vie au meurtrier ou au droit de légitime défense ou de libération des opprimés. Prenons un verset dans l'Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 5, verset 7. On a l'exemple d'Élisée qui guérit Naaman de sa lèpre. Dès que le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir ou vivre que celui-ci envoie vers moi pour guérir un homme de sa lèpre? C'est pourquoi sachez et voyez qu'il ne cherche qu'une occasion contre moi. » Et on sait que Naaman s'était rendu auprès du prophète et que le prophète lui avait demandé d'aller se saucer. Et il avait obéi et il avait été guéri. Quand on dit qu'il y a un temps pour tuer, un temps pour mourir, oui, le temps pour tuer, ça peut faire référence au gouvernement, faire référence au droit de légitime défense ou celui de la libération des opprimés. Puis le temps pour guérir, bien, quand le Seigneur décide, donne à quelqu'un le don de guérison, ou quand lui-même décide de guérir quelqu'un directement, comme quand Jésus est venu sur la terre, il en a guéri une multitude de toutes sortes de maladies possibles et imaginables. La quatrième paire, c'est celle du verset 3b, la deuxième partie du verset 3. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. On sait, d'après les Écritures, que Salomon était un grand bâtisseur. Cependant, on sait aussi que certaines de ses œuvres étaient destinées à être détruites. Lisons par exemple dans 1 Roi, chapitre 9, verset 15. Et voici ce qui concerne la corvée que le roi Salomon leva pour bâtir la maison de l'Éternel et sa maison, et Milo, et la muraille de Jérusalem, et Hatsor, et Megiddo, et Gézer. On peut voir, donc, il a bâti. C'était grand ce qu'il avait bâti. C'était gros ce qu'il avait bâti. Le temple, c'était énorme. Dans 2 Rois 25, au verset 8 à 10, au septième jour du cinquième mois, la 19e année du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nébuzar-Adan, capitaine des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison royale et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aux flammes toutes les grandes maisons. Alors on voit qu'il y a un temps, c'est le Seigneur peut permettre que l'œuvre de bâtisseur soit détruite. C'est ce qui est arrivé à Salomon. On sait, d'un autre côté, que les Écritures dans le Nouveau Testament nous montrent que la seule maison qui était qui était indestructible, c'est la céleste, comme on peut le lire dans 2 Corinthiens, au 5e chapitre, au verset 1. Nous savons, en effet, que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. On est rendu à la cinquième paire, la paire numéro 5, verset 4a. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Je pense qu'il n'y a pas un être humain sur la Terre qui a pris un moyennement d'âge, même jeune, très jeune même, tu peux l'avoir expérimenté. Mais plus on vieillit, plus on sait que ce verset-là est vraiment vrai. Il y a un temps dans la vie où on est triste, il y a d'autres temps dans la vie où on est joyeux. Tous les êtres humains ont expérimenté les pleurs et le rire. Nous savons que ces choses sont vécues dans des circonstances très différentes. Les deux font partie de la vie humaine. Les épreuves, la mort et la maladie provoquent souvent des pleurs. Quant au rire, on dit souvent de lui qu'il est l'hygiène de l'esprit. Il détend. Il allège les difficultés de la vie, réduit le stress et l'anxiété, et une multitude d'autres bienfaits. Bien sûr, quand on fait des commentaires sur ce genre de versets-là, on pourrait aller bien plus loin, donner une multitude d'exemples, à la fois bibliques et à la fois de la vie de tous les jours. La paire numéro 6, le verset 4b, un temps pour se lamenter et un temps pour sauter de joie. Se lamenter, c'est se plaindre longuement et gémir. Le livre Les Lamentations de Jérémie illustre avec force ce concept. Le prophète Jérémie l'expérimente avec une grande force à cause des malheurs d'Israël. Le Seigneur permet aussi des joies très intenses dans nos vies, celles qui nous donnent l'envie de danser. Ce sont des joies très intenses, très vives, et elles s'expriment à travers tout l'être, l'esprit, la parole, le chant et même le corps. Parce que quand on danse, c'est la joie qui s'exprime par toutes les parties de notre être, qu'on pourrait dire. Et bien souvent, lorsqu'il danse, il chante en même temps, puis toutes les parties de son être expriment le rire et le temps de sauter de joie. La paire numéro 7, c'est le verset 5a. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les ramasser. En agriculture, il peut s'avérer nécessaire de libérer un champ des pierres qui nuisent à la culture. Par exemple, à Ésaïe, au chapitre 5, le verset 2, on lit « Je chanterai pour mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défricha. Il en ôta les pierres. Il la planta de septes exquis. Il bâtit une tour autour d'elle et il y creusa un pressoir. » Donc, on voit qu'en agriculture, tous ceux qui l'ont fait, ils savent que quelque part, si tu veux avoir une terre qui se défriche bien, il faut que tu en enlèves les pierres, qui fait un bon travail en agriculture. Alors, bien sûr, on sait tous que les pierres peuvent être utiles dans la construction. On peut construire des tours, on peut construire des routes et bien d'autres choses. Elles ont souvent été utilisées comme des mémorials aussi dans les Écritures. Par exemple, lorsqu'il y avait une alliance entre Jacob et Laban, au chapitre 31 de la Genèse, aussi pour se commémorer du miracle de Dieu pour la traversée du Jourdain. Il y avait encore des pierres qui avaient été utilisées comme mémorial, et aussi comme un trophée de victoire sur Absalom, dans 2 Samuel, chapitre 18, verset 17. Dans chacun de ces cas, il y avait un dessein divin et une saison appropriée. La paire numéro 8, verset 5b, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Alors bien sûr, il peut s'agir des étreintes conjugales, des parents qui embrassent leurs enfants, comme un frère et en embrassant un autre, comme Ésaü, Jacob, un ami en embrasse un autre, tout ce qui est parfois très convenable et agréable. Mais il y a des saisons si calamiteuses et pénibles dans lesquelles les personnes sont obligées de laisser tomber de tels penchants. C'est vrai dans un sens spirituel, des étreintes du Christ et des croyants qui sont parfois et parfois non appréciées. Alors dans le livre des Cantiques on voit ça, que des fois il y a des rapprochements qui sont, que le Christ veut se rapprocher de son bien-aimé, il y a des reculs, des avances, et alors un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, ça aussi ça peut être pris dans un sens à la fois physique et à la fois spirituel. Père numéro 9, verset 6a, un temps pour chercher, un temps pour laisser perdre. Le Seigneur permet des périodes de prospérité dans la vie des hommes. Il est alors légitime pour un être humain d'accumuler prudemment des réserves, sans s'y attacher trop fort. Il arrive aussi que les circonstances nous obligent à abandonner les biens. Prenons l'exemple d'une faillite qui n'est pas causée par notre négligence ou notre imprudence, mais causée par des événements extérieurs, une crise financière, une maladie, etc. Beaucoup de chrétiens persécutés au cours de l'histoire chrétienne, l'histoire de l'Église, ont dû abandonner leurs biens pour sauver leur vie. Par exemple, en France, quand il y a eu... ils ont été persécutés, et il y a plusieurs chrétiens de cette époque-là qui ont quitté pour l'Angleterre, parce que s'ils ne quittaient pas leurs biens, c'était leur vie qui était en jeu. Alors, quand on dit « il y a un temps pour chercher, un temps pour laisser perdre », vaut mieux pas t'acharner dans ce temps-là quand tu vois que les circonstances sont comme ça. Vaut mieux abandonner tes biens et conserver ta vie. Hébreux chapitre 10, verset 34, nous rappelle cette vérité. « Car vous avez aussi compati à mes larmes, et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents et qui sont permanents. » Appel numéro 10, un temps pour conserver et un temps pour jeter. La prudence va inciter à protéger ce que nous avons gagné ou bâti. Mais il peut arriver que jeter est la bonne chose à faire. Prenons l'exemple d'un bateau qui abandonne sa cargaison dans le but de ne pas faire naufrage. Prenons l'exemple qu'on peut lire dans Actes 27, et versets 18, 19 et 38. « Comme nous étions fortement battus de la tempête, le jour suivant, ils jetaient la cargaison dans la mer. Et le troisième jour, nous jetâmes de nos propres mains les agrès du vaisseau. Et quand ils eurent mangé, verset 38, ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le bateau en jetant le blé à la mer. » On pourra prendre beaucoup d'autres exemples. La paire numéro 11, verset 7a, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. On sait que les Juifs avaient l'habitude de déchirer leurs vêtements lorsqu'ils voulaient manifester une vive émotion. Par exemple, lorsqu'ils entendaient quelqu'un qui blasphémait Dieu ou pour exprimer leur chagrin lorsque une personne, un être cher, décédait. Alors, on va prendre deux exemples pour déchirer. Dans l'Ancien Testament, 2 Samuel 1, versets 11 et 12. Alors David prit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Et ils menèrent deuil, et pleurèrent, et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül et de Jonathan son fils, et du peuple de l'Éternel, et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Autre exemple, celui de Caïphe dans Matthieu, chapitre 26, versets 65 et 66. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous plus besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Un temps pour coudre. Ézéchiel, chapitre 37, versets 21-22. « Dis-leur, ainsi a dit le Seigneur, voici je vais prendre les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts. Je les ferai entrer dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Et ils auront tous un seul et même roi. Ils ne seront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. » Alors vraiment, l'idée de déchirer et de coudre, ça peut être dans le sens vraiment littéral, comme ça peut être dans un sens aussi spirituel. Père numéro 12, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ça, je pense que les êtres humains ont vraiment, même les chrétiens, ont beaucoup à apprendre de ce verset-là, parce que souvent on parle quand c'est pas le temps, puis on parle pas quand c'est le temps. Alors, la maxime populaire qui dit « le silence est d'or » s'avère très souvent très vrai. En présence d'une personne qui souffre intensément, le silence est parfois le meilleur soutien que l'on peut offrir. Par exemple, dans le livre de Job, les trois amis de Job, dans Job chapitre 2, verset 13, ça dit « Puis ils restèrent assis à terre avec lui, 7 jours et 7 nuits, et aucun d'eux ne lui dit une parole, car il voyait que sa douleur était fort grande. » On a de la misère avec ça souvent, parce qu'on pense, on se sent obligé de dire quelque chose, que si on voit quelqu'un qui souffre, juste le fait d'être à côté, en sa présence, et que la personne, elle voit bien que tu es là, tu n'es pas obligé de parler, parce que des fois, les paroles peuvent tout gâcher. L'idée même que tu veux être là, puis l'aider dans son... l'aider, le soutenir, et être conscient de son, de sa douleur, de son mal. Aussi, dans le chapitre 17 du livre des Proverbes, au verset 28, « L'insensé même passe pour un sage quand il se tait, et celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Donc, on le sait qu'il y a un temps pour se taire. Souvent, on confond les deux, comme on a parlé tantôt. Il y a un temps aussi pour parler. Proverbe, chapitre 15, verset 23. On a de la joie à donner une réponse de sa bouche, et qu'une parole dite à propos est bonne. Proverbe 25, verset 11. Une parole dite à propos est comme des pommes d'or dans des paniers d'argent. Quand on reprend le sage qui a l'oreille docile, c'est comme une bague d'or ou comme un joyau d'or fin. 13e paire, verset 8a. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Je pense que les Écritures dans le Nouveau Testament ne manquent pas de versets pour nous parler de l'importance de l'amour. Regardons par exemple Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Bien sûr, le fameux passage d'1 Corinthiens 13 aussi nous en parle abondamment. Regardons le verset 3 et le verset 13. Et quand même, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Et quand même, je livrerai mon corps pour être brûlé. Si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande d'elles est la charité. Voyons aussi le chapitre 22, verset 35 à 40 de Matthieu. Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver et lui dit, « Maître, quel est le grand commandement de la loi? » Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Un passage de l'Ancien Testament dans le livre des Psaumes pour nous parler de notre devoir d'haïr le mal. Psaume 119, verset 113 et verset 128. « Je hais les pensées vaines, mais j'aime ta loi. » Verset 128, c'est pourquoi j'estime droit tous tes commandements et je hais toute voie de mensonge. Alors ici, il y a deux haines, les pensées vaines et les voies de mensonge. 14e et dernière paire, verset 8b, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps de guerre qui provient des passions incontrôlées des hommes, ou de la juste réparation d'un préjudice, ou d'une occasion fondée de légitime défense. Tout cela n'est pas du hasard. C'est la providence de Dieu ou le contrôle permissif du grand souverain de l'univers. La guerre est son châtiment. La paix, c'est le retour de la bénédiction de Dieu. Mais souvenons-nous que c'est sa prérogative. Psaume 46, versets 9 et 10. Venez, contemplez les exploits de l'Éternel, les ravages qu'il a faits sur la terre. Il fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il rompt les arcs, brise les langes, il brûle les chars au feu. Psaume 68, verset 31. Il disperse les peuples qui se plaisent au combat. Psaume 147, versets 12 à 14. Jérusalem, loue l'Éternel. Sion, célèbre ton Dieu, car il a renforcé les barres de tes portes. Il a béni tes enfants au milieu de toi. Il donne la paix à ton territoire. Il te rassasie de la moelle du froment. Le Seigneur se sert d'une très grande variété d'expériences et utilise l'outil de l'antithèse pour montrer que des actions très différentes, qu'elles soient du domaine civil, domestique, que ce soit des actions pécheresses ou vertueuses, légères ou lourdes, sages ou passionnées, menues ou importantes, il convainc qu'il est au contrôle et dans sa sagesse, il préordonne, limite, balance et dispose souverainement des affaires des hommes. Sa sainte main est toujours à l'œuvre pour le plus grand bien de ses élus. Un verset qu'on répète souvent dans le Nouveau Testament, mais je pense que ça prend énormément de temps avant d'en saisir toute la portée et surtout de le mettre en application dans notre vie de tous les jours. Sinon, si on l'aurait vraiment compris, Romains 8, 28, il n'y aurait jamais un mot de complainte qui sortirait de la bouche d'un enfant de Dieu. On le relit, c'est bon de le relire, parce qu'il y a beaucoup de... C'est un verset d'une très grande richesse. Romains 8, 28. « Or, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Puis quand on voit dans l'original, le grec dit « toutes choses qui travaillent ensemble ». Autrement dit, toutes les affaires qui se produisent dans nos vies, c'est comme un tricot. Ils travaillent ensemble pour notre plus grand bien. Troisième idée qu'on va regarder, c'est vraiment le décret divin qui est inexpliqué. On relit les versets 9 à 11. « Quel avantage celui qui travaille a-t-il de sa peine ?» J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux hommes pour s'y exercer. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis l'éternité dans leur cœur afin que l'homme puisse toutefois comprendre, sans que l'homme puisse toutefois comprendre depuis le commencement jusqu'à la fin l'œuvre que Dieu fait. Donc, il y a vraiment deux idées là-dedans, c'est que l'idée, c'est que la première, c'est que l'homme doit se contenter de ce qui lui a été donné par Dieu et accepter de comprendre les choses de la vie que partiellement et imparfaitement, parce que c'est ce qui est à son niveau. Le mot « avantage » du verset 9 pourrait aussi se traduire par « quel profit ». Alors, Salomon s'était déjà posé cette question, par exemple, au verset 11 du chapitre 2. Et j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et le travail auquel je m'étais livré pour les faire. Et voici, tout est vanité et tourment d'esprit, et il n'y a aucun avantage sous le soleil. La réponse de Salomon avait été alors très, très claire. L'homme, ou on peut dire le travailleur, l'acteur, le faiseur, n'y trouve aucun avantage ou profit. Il avait constaté que que tout était vanité et tourment d'esprit. Il avait aussi qualifié cette quête de sens par les mots « lourd fardeau » et par l'expression « grand mal ». Le lourd fardeau et le grand mal consistent en ceci. La vie ne peut être pleinement contrôlée, ni manipulée par l'homme qui cherche des récompenses dans les choses terrestres. Celles-ci ne peuvent pas livrer les récompenses recherchées par les efforts de l'homme. Le problème auquel doit faire face l'acteur humain se situe dans le fait qu'il y a un autre acteur, Dieu lui-même, qui domine et dirige, et dont les décisions, autrement dit les décrets divins, sont absolument efficaces, infaillibles et irréversibles. Autre et deuxième idée qu'il y a dans ce passage-là, c'est dans la perspective du temps de Dieu, tout est beau, approprié et incompréhensible, excusez-moi, exhaustivement. Verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis l'éternité dans leur cœur, sans que l'homme puisse toutefois comprendre, depuis le commencement jusqu'à la fin, l'œuvre que Dieu a faite. Notons bien que l'auteur de notre livre ne parle pas du temps de l'homme. Il a l'esprit plutôt le temps de Dieu. Traduisons ce terme indifféremment par « beau » ou « bon ». L'Ecclésiaste montre ce que le Seigneur Dieu fait est beau. Il commence par une remarque d'ordre général. Il exprime deux idées. D'une part, Dieu détermine la date à laquelle une chose doit commencer. Et d'autre part, il en fixe la durée. Ensuite, il développe cette déclaration et la décompose en plusieurs points particuliers. Le Dieu qui est annoncé développe cette déclaration et la décompose en plusieurs points particuliers. Le Dieu qui est annoncé ici est le seul Dieu de tous les temps, celui qui tient dans sa main le mécanisme du monde. La joie et la peine, la victoire ou la défaite, le bonheur comme la tragédie, le bien et le mal ne sont bons que parce qu'ils entrent dans les desseins divins. Parce qu'au cours de l'histoire, Dieu œuvre en notre faveur. Le bien nous parvient par le canal de sa grâce, et le mal, lui, fruit de l'esprit et du péché, trouve pourtant sa place dans ce même dessein, pour le servir et pour accomplir sa sainte et mystérieuse, quoique toujours parfaite et sage volonté divine. Aussi, tout est parfait, Dieu ne commet pas d'erreur. La beauté du tapis tissé de nos vies ne sera visible pleinement que dans l'éternité. Sur la terre, nous ne pouvons en voir que son envers. C'est une image que j'avais prise dans un sermon. À un moment donné, il nous parlait que Dieu tricote nos vies, mais on voit toujours l'enfer, l'envers. Parce que quand quelqu'un fait des tapis à la main, il y a des fils qui dépassent en arrière. L'envers du tapis, c'est le côté qui n'est pas vraiment beau. Ce n'est que lorsque l'on retourne le tapis et qu'on voit le motif dans sa beauté, dans sa disposition, dans son harmonie des couleurs, dans ses formes, que là, on s'exclame. Mais si on le voyait à l'envers, on comprenait pas vraiment le but de tout cela. Alors, trois applications de cette brève étude de ce passage-là. La première, prions le Seigneur de nous donner d'être toujours conscients et pleins de gratitude pour la sagesse de ses décrets, autrement dit, les circonstances providentielles de nos vies, et que toutes choses travaillent ensemble pour notre plus grand bien. On a besoin de prendre conscience de ça de plus en plus, de mieux en mieux. Alors, la prière au Seigneur peut, si le Seigneur nous exauce, et je pense que ça c'est le genre de prière que le Seigneur exauce, parce que c'est des choses qui lui plaisent. Deuxième application. Réalisons que les interventions de Dieu sont parfaites et universelles. Elles touchent absolument tous les aspects de notre vie sans aucune exception. C'est ce qu'on pourrait appeler la complétude, donc le caractère de ce qui est complet et achevé. Troisième et dernière application, que nos regards élèvent nos âmes dans l'adoration. Ô Dieu, que tu es grand, que tu es gracieux et que tu es merveilleux. Sois béni, loué et exalté éternellement. Amen.